C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez et vous êtes sur France Culture. Nous parlons d'Edgar Allan Poe avec Jean-Pierre Nogrette. Et si on n'a pas encore beaucoup parlé de Edgar Poe romancier, il faut dire qu'il n'y a qu'un seul roman, que ce roman n'a jamais été terminé, bien c'est le moment de réparer cet oubli avec un extrait des aventures d'Arthur Gordon Pym, lu ici par Jean Deschamps.
Nous n'aperçûmes personne à son bord, jusqu'à ce qu'il fût arrivé à un quart de mille de nous. Alors, nous vîmes trois hommes, qu'à leur costume nous prîmes pour des Hollandais. Deux d'entre eux étaient couchés sur de vieilles voiles près du gaillard d'avant, et le troisième, qui paraissait nous regarder avec curiosité, était à l'avant, à tribord, près du Beaupré. Ce dernier était un homme grand et vigoureux, avec la peau très noire. Il semblait, par ses gestes, nous encourager à prendre patience, nous faisant des signes qui nous semblaient pleins de joie, mais qui ne laissait pas que d'être bizarre. Et, souriant immuablement, comme pour déployer une rangée de dents blanches très brillantes. Le navire approchant davantage, nous vîmes son bonnet de laine rouge tomber de sa tête dans l'eau. Mais il n'y prit pas garde, continuant toujours ses sourires et ses gestes baroques. Le brick venait à nous lentement et mettait maintenant le cap droit sur nous. Et... je ne puis parler de sang-froid de cette aventure. Nos cœurs sautaient follement au-dedans de nous et nous répandions toutes nos âmes en cris d'allégresse et en actions de grâce à Dieu pour la complète, glorieuse et inespérée délivrance que nous avions si palpablement sous la main. Tout à coup, et tout à la fois, de l'étrange navire, nous étions maintenant sous le vent à lui, nous arrivèrent, portés sur l'océan, une odeur, une puanteur telle qu'il n'y a pas dans le monde de mots pour les exprimer. Infernale, suffocante, intolérable, inconcevable. J'ouvris la bouche pour respirer. Et me tournant vers mes camarades, je m'aperçus qu'ils étaient plus pâles que du marbre.
Je vous voyais écouter attentivement cet extrait. Qu'est-ce qui vous retient ?
Oui, justement, je l'avais moi-même choisi.
Comme c'est bien fait.
Je l'avais relu. Eh bien, ce qui me retient, c'est d'abord le fait que c'est un chapitre, c'est le chapitre 10 hein, des aventures d'Arthur Gordon Pym, du moins dans la traduction de Baudelaire, et dans le ce chapitre 10 s'appelle le Brick mystérieux. Or, c'est un titre de Baudelaire. Et là aussi, c'est intéressant, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que Baudelaire opère des choix, et notamment de trouver des titres de chapitres qui n'existent pas dans le texte, dans le roman de Poe. Mm-hmm. Donc c'est vrai que Baudelaire, par là même, oriente la lecture du lecteur français qui trouve ce titre, le brick mystérieux. Et c'est vrai que c'est un brick mystérieux, hein, puisqu'il y a là il y a un effet, c'est l'un des chapitres, il me semble, les plus marquants du roman, hein, roman comme d'ailleurs c'est son unique roman, hein, publié en 1838. Et là, on a un effet quasi cinématographique, hein, puisque Pym et ses compagnons voient apparaître hein, donc ce brick avec
ils sentent après l'odeur terrible
des gens qui leur font signe apparemment, qui le capitaine qui tourne la tête de droite à gauche, etc. Et qui en réalité c'est une sorte de vaisseau fantôme ou plutôt de
vous
vaisseau,
voyez qu'il y a des spectres partout
de vaisseau bien sûr de vaisseau rempli hein, de cadavres et cette puanteur. Hein. Alors, il y a évidemment un effet de retournement, puisque Pym et ses compagnons sont un peu à la dérive, et voyant un bateau approcher tout naturellement en tant que marin, ils leur font des signes. Hein, et curieusement, le bateau leur fait des signes aussi. Mais ce sont des cadavres hein, qui leur font signe, en quelque sorte. Hein, et d'où cet effet d'horreur et Poe insiste, hein, il dit « Nous vîmes clairement qu'il n'y avait pas une âme vivante sur ce bateau maudit.
Oui. » Alors, c'est, vous l'avez dit, le seul roman d'Edgar Poe, il n'est pas achevé. Est-ce qu'il faut comprendre là que Poe n'a pas réussi ou n'a pas voulu faire vraiment de roman ?
Alors, permettez-moi de rectifier un petit peu. En fait, il est parfaitement achevé. Simplement, c'est la narration de Pym qui est inachevée. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, Poe a terminé son roman, mais il y a un tel effet d'imbrication. Et ça, c'est quelque chose qu'Umberto Eco, d'ailleurs, analyse très bien, la complexité de l'enchevêtrement textuel entre Pym et Poe. Alors, on a remarqué que Pym et Poe, c'était presque, c'était deux noms qui se ressemblaient. Et en fait, Poe fait semblant que Pym n'a pas terminé sa relation.
Parce que ça se termine de manière très évanescente, quand même.
Parce qu'il est mort, justement. Mmh. Alors, là, il y a une contradiction flagrante entre la préface rédigée par Pym, lui-même, enfin, en tout cas, signée par Pym, non pas rédigée par Pym, mais signée par lui, qui date de juillet 1838, et puis la fin de son récit, qui débouche sur un vide, sur un gouffre, et dans une note qui est rajoutée après cet inachèvement apparent du texte, en fait, Poe nous explique que, entre-temps, Pym est mort. Ce qui fait qu'on ne comprend pas comment Pym a pu à la fois rencontrer, dit-il, Monsieur Edgar Poe, à qui j'ai confié mon manuscrit, etc. Mm-hmm. Et en même temps présenter un manuscrit inachevé, et inachevé de telle sorte que, en effet, la relation, parce que parfois on a pu traduire par la relation d'Arthur Gordon Pym, le titre anglais c'est The Narrative of, donc c'est plutôt le récit d'Arthur Gordon Pym. Baudelaire, en traduisant par Les aventures d'Arthur Gordon Pym, laisse tomber ce côté, l'aspect narratif. Or, ça se termine par une sorte de grands mystères dont on va peut-être reparler, avec un récit suspendu, comme l'est d'ailleurs un autre conte de Poe, manuscrit trouvé dans une bouteille, qui se termine là aussi sur une sorte d'impossibilité, puisque le narrateur continue d'écrire au moment même où, oui, son navire sombre, ce qui fait qu'on se demande comment il peut à la fois continuer à écrire, il termine en disant « il sombre », c'est le navire où il se trouve, et en même temps, on le voit mal mettre son parchemin dans une bouteille, le lancer à la mer, continuer.
Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que Poe a voulu faire?
Je pense que Poe, c'est un point qu'il faut souligner. Si on prend par exemple un modèle comparable, disons dans les années 1840, si on prend Charles Dickens par exemple.
On sait que Poe l'avait lu, lisait.
Poe l'avait lu, mais le récit dickensien est plutôt stable. C'est-à-dire le narrateur dickensien, si on prend David Copperfield ou Les Grandes Espérances, est plutôt stable. Il n'y a pas de remise en cause de la première personne narrative. Poe, au contraire, lui, introduit des narrateurs instables. Et pire encore, ou mieux encore pour nous, il introduit des manuscrits et des récits instables. C'est-à-dire qu'il met en cause la possibilité même d'écrire et de continuer à écrire. Mmh. Et donc
c'est une réflexion sur son propre travail.
Ces marins qui nous écrivent. Alors là aussi, dans Gordon Pym, on trouve des chapitres qui sont. Alors là, on sait que Poe a pillé allègrement des récits de voyages de l'époque, a pris des modèles un peu comme Melville le fera pour Moby Dick ensuite, des récits de capitaines, etc. Et on trouve un chapitre qui s'appelle Exploration vers le pôle, avec tout ce qu'on peut attendre d'un récit maritime, longitude, latitude, etc. Et donc on a une apparence de fiabilité du récit, qui repose sur des relations qui ont véritablement existé. Et puis dans une sorte de récit halluciné, qui est Gordon Pym, on trouve on trouve vers la fin, les derniers, ce que un critique comme Pierre-Yves Pétillon a appelé une longue dérive hallucinée.
Justement, il faut parler de ça, parce que c'est cette espèce de d'arriver dans la lumière blanche, dans le grand blanc, et je pense que là, il y a peut-être à expliciter un petit peu cette fin quand même de Arthur Gordon Pym.
Alors d'abord, en effet, oui, c'est une fin célèbre parce qu'elle pose plus de questions qu'elle n'en résout. Donc là, on trouve un Poe qui est à contre-courant de son modèle de détective, qui est censé tout résoudre. Et là, au contraire, donc dans ce dernier chapitre que Baudelaire a appelé le géant blanc, qui là aussi une pure invention de Baudelaire, on retrouve ce qui chez Poe n'est pas très bon signe, c'est-à-dire on retrouve le mode du récit, une sorte de logbook du marin qui dit 2 mars, 3 mars, 4 mars, 9 mars, et puis plus. Donc on a l'impression là aussi d'une sorte de chronique extrêmement précise du temps qui passe, et en réalité il se retrouve dans un paysage de plus en plus étrange, une poussière blanche très fine ressemblant à de la cendre tomba sur le canot et sur une vaste étendue de mer, la substance cendreuse pleuvait alors incessamment autour de nous. De funestes ténèbres planaient alors sur nous, mais des profondeurs laiteuses de l'océan jaillissait un éclat lumineux qui glissait sur les flancs du canot. Et en fait, vous avez raison, la fin du récit se transporte dans une sorte d'univers onirique, avec la couleur blanche qui devient obsédante. Alors on a les critiques ont lu assez différemment cette blancheur laiteuse. Il y a à la fois un réchauffement de l'eau et une sorte d'incandescence lumineuse et laiteuse qui fait que
bon, on par imagine exemple, que c'est peut-être une grande chute d'eau aussi qui alors, crée des remous et un espèce de nuage d'eau blanche comme ça.
C'est ça, donc c'est probablement en effet une sorte de cataracte. C'est ce que dit le narrateur d'ailleurs dans les dernières lignes. Il dit « Et alors nous nous précipitâmes dans les étreintes de la cataracte », mais il dit bien « étreinte ». Et donc étreinte à la fois c'est quelque chose qui est mortifère, qui va probablement le précipiter vers la mort. Mais par exemple, des lectures de type psychanalytique, je pense à Marie Bonaparte dans son fameuse étude psychanalytique de Poe, a évidemment eu tendance à lire cette blancheur laiteuse, à la fois l'eau qui devient de plus en plus chaude et laiteuse comme une sorte de retour vers le sein maternel. Donc c'est vrai qu'on arrive dans un univers absolument extraordinaire. Ordinaire, là, au sens de Baudelaire. Mais en même temps, cette blancheur, on a pu la lire aussi, cette fois-ci, du point de vue presque mallarméenne, une sorte de tendant vers une écriture, vers la page blanche, au sens justement où le récit va se terminer, mais en même temps, c'est une sorte de déperdition vers l'écriture.
Il nous reste assez peu de temps pour conclure sur cette question du roman versus le conte. Est-ce que vous avez une explication sur l'absence, finalement, à part Gordon Pym, de réel roman chez Edgar Poe?
Je pense que Poe était sans doute plus à l'aise dans le conte, parce que justement le conte lui permettait d'illustrer sa théorie de la composition, de la philosophie de la composition, comme quelque chose de ramassé.
C'est la densité qui compte.
Voilà, la densité de la composition, les effets sonores, donc d'écho, de leitmotiv, et presque incantatoire, qu'il tenait de la poésie, de son activité poétique.
Donc c'est un choix, ce n'est pas l'échec de la forme longue.
Je ne pense pas que ce soit véritablement un échec, ni qu'il l'ait vécu lui-même comme un échec. Mais par contre, alors là on peut dire que cet unique roman va précipiter Melville et Moby Dick.
Merci beaucoup Jean-Pierre Nogrette. Parmi les nombreuses éditions que vous avez faites des livres de Poe, je signale en particulier le gros volume des histoires, essais et poèmes dans la collection Pochothèque du Livre de Poche. Et puis je signale également votre roman paru il y a tout juste un an intitulé Destination Cérès. C'est aux éditions du Visage Vert.